RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Jean-Marc Chanelet et de Lucas Touzard, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Coach Courbis. Salut Roland.
Salut les amis.
Et avec Edouard G qui est avec nous en direct de Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut coach.
Salut Doudou.
Bon alors pas d'évaluation salut, pour ce premier podcast de l'année 2022 concernant l'OL, puisque pas de match ce week-end, on connaît l'histoire. Mais tout de même des débats, comme toutes les semaines. Notamment, on va débattre de la façon dont le club est en train de se réorganiser après le départ de Juninho. Parce que c'est intéressant de voir un peu qui prend la place, parler de recrutement, de cellules de scouting et compagnie. On va le faire dans quelques instants et puis on va évoquer le mercato, bien sûr, du mois de janvier pour l'OL, qui pourrait être actif, notamment en attaque. Tout ça tout de suite dans le podcast After Lyon. Donc là, Edouard Juninho est parti.
Oui. Alors, mentalement, il était déjà parti depuis un petit moment. On l'a même pas vu lors du dernier match face à Metz. C'était le 22 décembre dernier. Et voilà, il a vraiment tourné la page. Donc, il est parti un petit peu dans l'anonymat. Il n'y a même pas eu de communiqué de l'OL. Preuve quand même d'un certain malaise. Voilà, on n'a pas officiellement scellé son sort, on va dire. Mais il est parti au 31 décembre. Il n'est plus salarié à 150 000 euros par mois net de l'OL. Donc, il a quitté son poste de directeur sportif.
Oui, il avait quand même un CDI.
Oui, un CDI.
À ce salaire-là.
À ce salaire-là, oui. Il était, alors c'est pour ça que lui, il parlait d'un contrat de 3 ans, mais en fait, c'était dans sa tête. Il s'était donné ce 3 ans pour voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner.
Pas beaucoup de gens quand même qui quittent un CDI à ce salaire-là. Je ne sais pas. Disons qu'il faut avoir un peu de réserve. Quoi, tu vois.
En plus, je pense qu'il doit y avoir certains accords que nous ne sommes pas au courant et que ça ne nous regarde pas.
Je pense qu'il a...
Non, lui, il a dit qu'il partait avec...
Ouais, je partais avec... sans rien, ouais. Parce que c'est lui qui quitte vraiment le navire. Il a fait un petit coup de... voilà, retenez-moi ou je fais un malheur. Et puis finalement, personne ne l'a retenu d'une certaine manière, en exagérant. Parce qu'il ne faut pas trop que j'attaque la légende du Nino. Le joueur restera ce qu'il est, mais le directeur sportif, voilà, comme l'a dit le président Aulas, le costume était peut-être un peu trop grand. Et mais... il ne s'est pas fait dans ce rôle-là.
Moi, je ne pense pas que... cette histoire de costume trop grand. Je pense tout simplement que Juninho, passionné de football, et ex-grand joueur de Lyon, je pense qu'il n'a jamais été directeur sportif avec le costume de directeur sportif. Lui, pour lui, sans s'en rendre compte, il est entraîneur. Ce qui l'intéressait dans son rôle de directeur sportif, c'est comment joue Lyon, la composition d'équipe, l'organisation, les changements en cours de match. Ce n'est pas une réflexion de directeur sportif, ça, c'est une réflexion d'entraîneur.
Exactement.
Et d'ailleurs, je pense que dans un avenir très très proche, on va le voir sur un banc. Après, réussira ou réussira pas, on aura l'occasion de le regarder avec beaucoup de sympathie en plus parce qu'il est adorable et donc on verra ça, mais il n'a jamais eu pour moi l'idée d'être un directeur sportif. Non, il était entraîneur sans même s'en rendre compte.
Et puis il a appris un métier un petit peu sur le tas, mais il n'y avait pas forcément aussi les structures. Et notamment, je l'ai toujours dit et je le répète parce que j'en suis certain, Gérard Rouillet nous a quittés trop tôt par rapport à ça aussi parce qu'il pouvait l'aiguiller. Et avec lui, peut-être l'histoire aurait été différente. Il aurait pu apprendre à côté de Gérard Rouillet.
Absolument.
Tout au long de... Parce que c'est un rôle qu'il faut aussi apprendre, ce rôle de directeur sportif. Du coup, eh bien, comme l'a dit Jean-Michel Aulas dans une vidéo... paru donc sur les réseaux sociaux du club, eh bien l'OL se réinvente alors un petit peu à tous les étages. On essaye de repenser un certain nombre de choses et au niveau sportif, eh bien Bruno Chéroux qui était là depuis juillet 2020, en rappelant qu'il a remplacé Florian Maurice parti à Rennes à ce moment-là. Alors il a travaillé un an auprès de Juninho et puis les relations se sont totalement rafraîchies et finalement on l'a rappelé. Alors il était pas totalement parti, il s'occupait beaucoup des féminines, mais désormais il a un nouveau rôle depuis le 23 décembre dernier. Il est directeur du recrutement masculin et féminin, plus conseiller technique auprès de la direction du football. Alors, comme il l'a dit, il n'y a pas eu de communiqué, mais il a donné une interview au réseau du club et au Progrès. Il n'est pas le remplaçant de Juninho en tant que directeur sportif, parce que les prérogatives du directeur sportif sont plus larges, mais il va gérer un petit peu tout le recrutement. Et tout ce recrutement s'organise avec 4 scouts. Sectorisé au niveau géographique et puis les niveaux un petit peu de jeu. Je m'explique, il y a l'historique Michel Rouquette qui est toujours là. Alain Queviglia, lui qui est spécialisé plutôt dans les joueurs de Ligue 2 et de National, dans un premier temps, on va continuer ce rôle-là. Il arrive.
Je m'arrête juste sur Queviglia avant que tu détailles la suite. Il était agent, Alain Queviglia.
Il y a longtemps, hein, je crois, oui.
Donc
oui,
il y a longtemps.
Après, voilà, il était à Caen.
Il a été agent. Après, il a été, effectivement. Donc, moi, ça m'étonne toujours un peu cette frontière. Bon, on en reparlera, un peu poreuse, entre, en fait, un coup, tu es agent, puis après, tu deviens recruteur, directeur sportif, puis tu peux redevenir agent. Bon, on en reparlera. Mais je te laisse détailler dehors, on y reviendra.
Donc, le troisième, c'est Alexandre Janin, alors, qui était venu avec Bruno Giroud, hein, qui était dans cette cellule. C'est l'ancien team manager des féminines du PSG, qui est donc à l'OL depuis l'arrivée de Bruno Giroud en juillet 2020. Et il cherche une quatrième personne. Alors, on glisse le nom, pourquoi pas, de Grégory Lorenzi de Brest, qui pourrait, pourquoi pas, intégrer tout cela. Il y a aussi un analyste vidéo. Et puis, il y a une personne qui s'occupe d'une plateforme sur laquelle on centralise tous les matchs et puis les données des uns des autres. Voilà la cellule de recrutement autour de Bruno Giroud. Alors, c'est compact, comme il l'a dit. Il ne veut pas une armée. On en avait parlé, hein, souvenez-vous, Roland et Gilbert. Mmh. On se disait, ouais, est-ce qu'il ne faut pas avoir 50 scouts dans chaque pays du monde pour... Non, lui, il ne veut pas être DRH de 50 scouts, comme il l'a dit. Il veut une équipe compacte, sectorisée au niveau géographique. En plus, on s'appuie sur les clubs partenaires, que ce soit au Portugal ou au Brésil, ou les académies qui s'ouvrent au Ghana, au Vietnam, voilà, de ce côté internationalisation aussi de le recrutement.
Tu vois, si on fait la comparaison avec Juninho, donc on vient d'en parler, pour moi j'ai donné mon point de vue. Juninho, pour moi, n'a jamais été à l'intérieur de lui-même un directeur sportif. Toujours la passion du football, c'était... j'insiste, il s'en rendait peut-être pas compte, c'était un entraîneur et c'est d'ailleurs un futur entraîneur. Par contre, Bruno Giroud, ben, je le vois là dans le bon habit,
dans le bon costume.
Exactement. Tu fais bien de m'aider.
Merci. Ou le bon survêtement éventuellement, si le bon du terrain.
Voilà, pour moi, le costume là, pour moi, lui va très bien.
Ah, juste dans ce que détaille Edouard là, est-ce que tu estimes que c'est suffisant pour un grand club comme Lyon? Avoir 4 scouts plus des analyses vidéo?
Ça me paraît un petit peu léger, mais bon, dans un premier temps, je crois qu'il y a aussi les secteurs. Et là, il y aura 4 secteurs. Et après, rien n'empêchera de rajouter un scout à chaque scout et d'avoir dans quelques mois plutôt 8 que 4.
Un louveteau, tu veux dire, à chaque scout.
Si tu veux.
Puis après, il y a le carnet d'adresses des uns des autres. Et puis, ils disent aussi, Lyon vise quand même des joueurs de niveau Ligue des Champions ou des joueurs déjà bien connus. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir... on les connaît, on peut avoir des vidéos sur eux. Rien n'empêche, bien évidemment, et il l'a précisé, c'est très intéressant d'aller voir un petit peu comment ils fonctionnent en sélection, un match à domicile, un match à l'extérieur, prendre des contacts aussi humain pour savoir comment il vit, pour avoir aussi cet œil, parce que la vidéo ne suffit pas, il faut voir un joueur dans un match et puis surtout voir ce qu'il fait peut-être ou ne fait pas pendant que l'action se passe ailleurs, fait-il un bon repli défensif, etc. etc. Donc Bruno Giroud, voilà, c'est pas de modèle à l'anglaise avec 50 scouts. Je ne suis pas DRH, je n'ai pas envie d'avoir 50 personnes à superviser. On est là pour être réducteur d'incertitude et on va proposer des joueurs, donc en l'occurrence au coach Peter Bosz, et il n'est pas là au quotidien à discuter avec Peter Bosz, et d'ailleurs son bureau n'est pas à côté de celui de Peter Bosz, il est dans le stade, hein, on va dire. Donc, il y a aussi cette différence fondamentale avec Juninho. Voilà pour la nouvelle organisation autour de Bruno Giroud, pas officialisée, mais qui est en place, pas officialisée, on va dire, par un communiqué. Parce qu'on sait qu'à l'OL, on aime bien faire des communiqués. Ben, il n'y a pas eu de communiqué pour ça. Il s'exprimera peut-être à la fin du mercato. Mais parce que là, il va avoir bien évidemment beaucoup de travail. Il y a un vrai travail collectif. Et si la piste, par exemple, on va en parler, de Sardar Azmoun aboutit, ça, c'est absolument pas une piste Juninho. C'est une piste vraiment qui vient un petit peu de ce travail déjà, parce que ça, c'est pas sorti ex nihilo, hein, le 23 décembre dernier. Hein, ça existait déjà un petit peu, mais là, ça a été organisé autour de Bruno Giroud.
Je reviens sur l'histoire Caviglia, là, un gars qui passe d'agent à club. C'est gênant, pas gênant, Roland ?
Il était directeur sportif à Caen.
Oui, tout à fait, mais il a été agent avant.
C'est ça.
Bon, je ne sais pas, hein, je pose la question de conflit d'intérêts éventuel.
Tu as, si tu veux, les relations avec le monde du football. Hmm. Et si tu es directeur sportif, il faut que tu aies les relations aussi avec les agents. Donc après, qu'un agent, qu'un directeur sportif puisse être un ancien agent, je dirais, ben, pourquoi pas.
Bon, très bien. Donc,
On a eu l'exemple à Marseille où un Pape Diouf est un ancien agent, un ancien consultant, un ancien journaliste. Il avait tout ce que je peux appeler moi, les données pour être un bon président.
Voilà. Et à Bourg-en-Bresse, tu as un ancien agent qui est désormais président du club, David Venditelli, par exemple. Pour un club en national. Donc, il y a des passerelles aussi.
Parlons mercato. Edouard, on sait que le principal problème est en attaque. Faisons un petit résumé de ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent.
Eh ben, il faut déjà vendre pour acheter.
Ah.
Voilà, c'est déjà. Alors, c'est vrai qu'avec Sardar Azmoun, il y a un accord avec le joueur, on en a déjà parlé. Avec Loïc Tanzi, on a aussi travaillé sur une piste, donc une offre faite par l'OL, parce que donc le joueur est d'accord pour un contrat jusqu'en 2025, je crois, de mémoire. Et l'OL a fait une offre de 4 millions d'euros, en sachant qu'il est libre à la fin du mois de juin. Donc, pour les 6 derniers mois, donc 4 millions d'euros. Est-ce que le Zénith va donner suite? Mais en tout cas, il faut aussi vendre. Alors c'est vrai qu'il y a, je vous parle de Oussem Aouar aussi qui a peut-être un bon de sortie. On a lu autour de Xanane Shaqiri qu'éventuellement l'OL voulait s'en séparer. Moi, au club, on me dit qu'on veut le garder. On ne veut pas le mettre sur la liste des transferts, même avec des stats minimes, mais son recrutement n'est pas forcément en adéquation avec les besoins à l'époque, hein, parce qu'on recrute Xanane Shaqiri, on a déjà parlé, hein, pour un poste on va dire délié, alors qu'il n'est absolument pas ce profil-là, et plus au milieu du jeu. Il faut d'abord vendre avant d'aller acheter. En plus, vous avez noté que la période avec les jauges, l'OL va faire beaucoup d'argent avec le match face à Paris qui va se dérouler avec très peu de personnes, là où c'est éventuellement 4 à 5 millions d'euros qui peuvent rentrer. 15 jours après, il y a le derby.
Mais tu sais, c'est intéressant, Edouard. Tu es en train de nous dire que les mesures sanitaires peuvent impacter directement le mercato de l'OL.
Bah, en tout cas, l'impact, les finances, donc à très court terme, hein, principalement, grosso modo, un match comme le PSG, un match de niveau Ligue des Champions, ça rapporte à peu près 5 millions d'euros à l'OL. Alors, il y a toutes les charges aussi, hein, mais ça rapporte une somme considérable. Il y a celui-là, il y a le match de Saint-Etienne le 21 janvier, pareil, 50 000 personnes, donc 5 millions d'euros qui, entre guillemets, disparaissent. Vous enlevez aussi le match de Marseille. Qui va se rejouer, mais à huis clos. Donc, ça fait beaucoup d'argent en moins. On peut imaginer 10 à 12 millions. Alors, c'est sur les comptes de l'année prochaine, mais ça veut dire que ça limite un petit peu les marges. Il faut aussi en tenir compte au niveau de ça, parce que les aides de l'État ne vont pas être en adéquation, bien évidemment, avec 5 millions d'euros pour un stade, pour un match à 50, 60 000 personnes.
Effectivement, donc à suivre pour le mercato. Enfin bon, quoi qu'il arrive, l'attaquant, moi j'ai du mal à envisager que ça se fasse pas même sans vente, Edouard, parce que là il y en a un besoin concret avec la CAN.
Oui, parce que Slimani, Islam oui. Slimani avec l'Algérie, Tino Kadewa avec le Zimbabwe, Kaltoko et Kambi avec le Cameroun. D'ici le 6 février, ils vont pas être beaucoup là. On leur souhaite d'ailleurs de pas être beaucoup là, ça voudrait dire qu'ils aillent jusqu'au bout. Ouais, ça va être Il va falloir aller chercher quelqu'un, il va falloir se réinventer. Après, il peut y avoir aussi le retour de Jeffrey Adelaide, mais là, c'est plus au printemps qu'au cœur de cet hiver, une fois qu'il sera remis de sa deuxième opération au genou.
Bon, après, dans le malheur des clubs concernés par les départs à la CAN, finalement, avec la refonte du calendrier, il n'y a plus tellement de matchs en janvier, parce qu'il y a des matchs que... Alors, Lyon a un match en retard à jouer, enfin, le fameux match contre Marseille. C'est des matchs
qui
ne
devraient pas se faire au mois de janvier.
En plus.
Qui devraient pas se faire au mois de janvier.
En plus. Donc, là, tu n'as plus de matchs en semaine. Par exemple, avant, il y en avait. Il y avait de la Coupe de la Ligue,
de
la Coupe de France.
Les joueurs qui sont dans la CAN, ils ne sont pas dans la même sélection. Donc, ils ne vont pas aller tous au bout.
Tout à fait.
En plus, ouais.
On a du mal à envisager que le Zimbabwe est en finale, par exemple.
Par exemple.
Ah bon, c'est jamais. Hein.
Mais si c'est le Zimbabwe, ce sera que le Cameroun qui ne sera pas allé ou...
Ah, il peut y avoir une finale Zimbabwe-Cameroun. Hein.
Oui.
Avec l'Algérie en demi-finale. Et là, t'es pas bien quand même. On va suivre. Merci en tout cas, coach. Merci, Edouard. Prochain podcast After Lyon, lundi prochain. Bye
si
bye.
Tu m'accordes... Oui, vas-y. Si tu m'accordes juste 10 secondes, je voulais juste dédier ce podcast à un collègue, un photographe, Philippe Desmas, qui nous a quitté d'une crise cardiaque le jour de Noël. On a travaillé beaucoup ensemble sur le foot à Lyon et son départ d'une personne vraiment bienveillante, plein de chaleur, d'humour, nous a fait tous du mal dans les suiveurs de l'OL. Donc on adresse à ses deux filles et à son épouse tous nos voeux dans ce moment de peine.
Merci Edouard. Et à lundi prochain les gars pour un prochain podcast After Lyon.
RMC
After Lyon,
le podcast
Gilbert Bribois.